Chapitre 2. Encore à moitié endormi, Gabriel leva les paupières avec cette bouche pâteuse des lendemains de cuite. Sa silhouette de face m'était couchée en travers d'un lit au drap défait, sur le ventre, bras écartés. Il s'humecta les lèvres, tourna difficilement la tête. Le radio-réveil posé sur sa gauche indiquait 11h11. Il grogna dans son oreiller, toujours imprégné des vapeurs de son cauchemar. Ces oiseaux inanimés projetés du ciel s'écrasant sur le bitume et sur les capots des voitures. Cette pensée le fit encore frissonner. Ses rêves revêtaient une telle force depuis la disparition de Julie, étaient d'un tel réalisme. Une fois debout, le gendarme sentit sa tête lourde, comme si tout le sang de son corps s'y concentrait. Il lui fallut une vingtaine de secondes pour se rappeler. L'hôtel, la chambre 29, le registre. La pluie fine d'un mauvais jour de printemps crépitait contre la vitre. Il jeta un coup d'œil alentour. Il ne trouva ni son téléphone, ni le classeur, ni son carnet. Un sac avec des affaires d'homme qui ne lui appartenaient pas traînait sur le sol. Sur le dossier de la chaise, un blouson en cuir, et sur une table de chevet, une paire de lunettes à monture noire. Où avait-il posé sa parka bleue nuit? Pourquoi de solides bottes en daim, style cow-boy, avait-elle remplacé ses chaussures militaires? Un bruit de moteur au dehors. Il se dirigea vers la fenêtre et constata avec effroi que son cauchemar était réel. Des dizaines, peut-être des centaines d'oiseaux marbraient l'asphalte. Comme au cours de la nuit, il poussa le battant, d'ailleurs resté entrouvert, et se baissa pour toucher du bout du doigt l'oiseau le plus proche de lui. Le minuscule corps était glacé, les yeux voilés d'un film grisâtre. Il se redressa incrédule. À cet instant seulement, il prit conscience qu'il était au rez-de-chaussée, deux étages plus bas que la veille. La porte qu'il venait de franchir permettait d'entrer et de sortir sans transiter par l'accueil, comme dans les motels. Il se précipita vers la table de chevet où reposait le gros porte-clés. Sur la boule blanche était inscrit le numéro 7. D'accord. D'accord. Prendre le temps et réfléchir. À l'évidence, il n'était pas dans sa chambre. Il s'était endormi dans la 29 et s'était réveillé dans celle d'un inconnu. Peut-être avait-il fait une crise de somnambulisme. Dans un état second, il avait assisté à l'incompréhensible hécatombe, un spectacle digne d'un film d'Hitchcock, puis s'était rendormi. Il vérifia le contenu du minibar. Intact. Il n'avait donc pas bu. Ou alors il avait picolé dans sa chambre d'origine avant d'errer dans les couloirs puis d'ouvrir une porte au hasard. Il n'avait jamais vécu un truc pareil. Mais depuis des jours, tous ses collègues lui disaient de lever le pied. La disparition, le surmenage, le manque de sommeil avaient dû créer une sorte de court-circuit dans son cerveau. Mais une chose était certaine. Il existait une explication rationnelle à cette situation. Pieds nus, il remonta au deuxième étage en pleine réflexion. S'il avait passé une partie de la nuit dans la 7, où se cachait l'individu qui aurait dû l'occuper? Pourquoi le cow-boy avait-il abandonné ses affaires? Au bout de l'étroit couloir, la 29 était fermée à clé. Il frappa, sans succès. Une nouvelle journée de merde s'annonçait. De retour dans la piole du bas, il décrocha le téléphone de l'hôtel et composa le numéro de son coéquipier de toujours. Il tomba sur le répondeur et laissa un message. « Oui, Paul, c'est moi. Tu ne vas pas me croire, j'ai piqué un somme à l'hôtel de la falaise et il a plu des oiseaux morts dans la nuit. Des centaines d'oiseaux qui tombaient du ciel comme des grêlons. Bref, je devrais arriver à la brigade d'ici une demi-heure. Enfin, si je récupère mes affaires. Je t'expliquerai. Tchuss, tchuss. » Il appela sa femme dans la foulée. Une voix d'automate lui indiqua que le numéro n'était pas attribué. Il recommença, s'assurant de presser les bonnes touches. Même rengaine. C'est quoi ce bordel? Il remonta le couloir en direction de l'accueil où une femme d'une quarantaine d'années était en ligne. Elle raccrocha, non sans jeter un bref coup d'œil sur ses pieds nus.
Nous ne sommes pas les seuls impactés par les oiseaux,
fit-elle d'une voix encore paniquée.
Il en a plu partout autour de l'hôtel et jusqu'au viaduc à l'entrée de Saga. Je n'ai jamais vu ça. Ils viennent sûrement de la colonie.
Quelle colonie?
Vous l'avez forcément aperçu en arrivant hier, non? Celle des tourneaux installés le long des berges de larves. Devant les yeux écarquillés de Gabriel, elle crut bon de se justifier. Des experts estiment qu'il y a environ 700 000 individus venus d'Europe du Nord émigrant vers l'Espagne. Ils ont fait étape à Saga il y a 3 jours. Leur vol dessine d'incroyables figures dans le ciel et on les entend piailler à des centaines de mètres à la ronde. Si vous sortez en écoutant bien, vous le constaterez par vous-même.
Elle voyait que Gabriel ne comprenait rien, mais n'insista pas.
Je peux vous aider ? Vous êtes resté enfermé en dehors de votre chambre, peut-être ?
Non, ce n'est pas ça. Hier soir, M. Tanchon m'a remis la clé de la chambre 29 aux alentours de... je ne sais plus, il était tard en tout cas. Et j'ai ouvert les yeux dans la 7, avec des affaires qui n'étaient pas les miennes. Je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une crise de somnambulisme, un truc dans ce goût-là.
Elle se tourna vers le porte-clés mural, décrocha une clé. Vous seriez descendu du 2e étage au rez-de-chaussée sans vous en apercevoir, genre les bras devant comme un zombie. Et vous seriez entré dans une autre chambre.
Je ne vois pas d'autre explication.
Et le client de la 7, il serait où alors ? Dans la 29 ?
Probable.
Impossible, puisque la clé de la 29 est ici. À moins qu'il ne l'ait déposée sans que je m'en rende compte. Excusez-moi, mais cette histoire d'oiseau m'a chamboulé.
Gabriel était de plus en plus perdu. Il n'avait pas le souvenir, par exemple, que les santons étaient aussi nombreux sur l'étagère, ni aussi laids. Il était sûr de ne jamais avoir vu cette horloge en toc, celle du tableau de Salvador Dali, persistance de la mémoire, qui coulait tel un fromage depuis l'angle du comptoir. L'écran de l'ordinateur était plus grand et moins épais que la veille. Ces détails le mirent mal à l'aise. Tout lui paraissait à la fois semblable et différent, comme s'il marchait à la frontière entre deux mondes. La femme posa la clé de la 29 devant lui et pianota sur son clavier. Après avoir consulté l'écran, elle leva un œil interrogateur.
« Non, non, il y a décidément un os, comme dirait l'autre. La chambre où vous vous êtes réveillé a bien été réservée par un certain Walter Guffin pour une nuitée, et il n'a pas encore fait son check-out. Il est donc encore dans l'hôtel ou parti voir ce qui se passe avec les oiseaux, mais il devrait revenir. Par contre, je n'ai pas eu de réservation pour la chambre que vous prétendez avoir payée. »
Gabriel remuait ses orteils sur le carrelage froid. Il n'avait qu'une hâte, quitter cet établissement infernal et retourner à la brigade. Derrière lui, une cliente attendait, un sac sur le dos. Jeune, brune, tatouée de partout. À tous les coups venue voir un tolard quelconque. C'est parce que M. Tanchon ne m'a pas inscrit sur le registre ni dans l'ordinateur. Il m'a simplement prêté la chambre 29 pour quelques heures. Je devais redéposer la clé dans le panier, mais je me suis assoupi.
Romuald, prêtez une chambre. Vous auriez plus de chances de faire manger une entrecôte à un vegan.
Écoutez, on ne va pas y passer la journée. Donnez-moi cette clé que je récupère mes affaires. Je vous la rends dans 5 minutes. La quadragénaire la lui tendit d'un geste désagréable et s'adressa à la demoiselle qui commençait à manifester son impatience. Gabriel remonta sur les nerfs. Qu'avait-elle raconté ? Un vegan ? Cet hôtel allait le rendre fou. Il déverrouilla la porte et entra dans la 29. Vide, lit fait, rideau tiré. Ça sentait les produits d'entretien et la bombe désodorisante. Il traversa la pièce, s'approcha de la fenêtre, la falaise. En contrebas, les impacts sombres et rouges des volatiles. Il avait été pile à cette place la veille avant de s'endormir, il en avait la certitude. Il s'était assis sur le matelas avec le registre et avait noté scrupuleusement les identités des clients dans son carnet. Il jeta un œil sous le lit, puis dans le tiroir de la table de chevet au cas où la femme de ménage aurait rangé ses affaires. Où était ce fichu carnet ? Son uniforme de gendarme ? Qu'avait-on fait de ses rangers ? Lorsqu'il fit le tour de la salle d'eau, le reflet qu'il vit dans le miroir lui fit l'effet d'une gifle. Ce n'était pas lui.